The Sangha is invited to come back to our breathing so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, flowing as a river, with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the boundaries of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex.
The heart of perfect understanding,
the Bodhisattva. Shariputra, form is emptiness, and emptiness is form. Form is not other than emptiness, emptiness is not other than form. The same is true with feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. Listen, Shariputra, all Dhamma. No mental formations, no consciousness, no eye or ear or nose or tongue or body or mind, no form, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind, no ramps of elements from eye to my consciousness, no interdependent origins and no extinction of them, from ignorance to death and decay. No ill being, no cause of ill being, no end of ill being, and no path, no understanding, and no attainment. Because there is no attainment, the Bodhisattva surrounded in perfect understanding find no obstacles for their minds. Having no obstacles, they overcome fear, liberating themselves forever from illusion, realizing perfect nirvana. All Buddhas in the past, present, and future, thanks to this perfect understanding, arise. Je prends refuge dans le. Bodhamaya. Kono refusion la Sangha, qui fait me soutien, me libérant de toute illusion. Namo Sanghaya.
Bonjour chère Sangha. Aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre 2013. Nous sommes dans la salle de l'Assemblée des Étoiles, dans le temple Nectar du Dharma, au hameau du Bas, village des Pruniers. Ce matin, au hameau du Haut, nous avons pratiqué le toucher de la terre, après la méditation assise. Et on a fait la promesse au Bouddha que nous allions apprécier la pratique de la marche méditative dans notre vie quotidienne. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes pressés et on n'apprécie pas nos pas, les pas que nous faisons. À chaque fois, nous focalisons notre attention sur notre respiration et sur les pas que nous faisons. Et comme cela, nous pouvons produire une sensation de joie, une sensation de paix. Et nous pouvons entrer en contact avec les merveilles de la vie. Notre corps est une merveille. Il est comme cette fleur. Il est une merveille de la vie. Il y a tellement de merveilles de la vie autour de nous et à l'intérieur de nous-mêmes. Mais parfois, nous ne pouvons pas être en contact avec cela parce que nous sommes pressés, nous cherchons quelque chose. Peut-être nous cherchons le bonheur. Et nous marchons comme des somnambules et nous n'apprécions pas la marche. Nous n'apprécions pas nos pas. Lorsque nous venons au village des Pruniers, nous pratiquons la méditation marchée avec la Sangha. Et si quelqu'un demande quelle est l'utilité de la marche méditative, pourquoi vous faites cela? Dans quel but? Pourquoi est-ce que vous pratiquez la méditation marchée? Et vous pouvez offrir plusieurs sortes de réponses. Mais pour moi, la meilleure réponse, c'est parce que j'aime ça. Parce que j'aime la marche méditative. Et je me réjouis de chaque pas. Chaque pas me rend heureux. Il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'intérêt à faire la marche méditative si on ne se réjouit pas de chaque pas que l'on fait. Ce serait du gaspillage. C'est la même chose avec la méditation assise. Pourquoi vous faites de la méditation assise heure après heure après heure? La meilleure réponse, c'est parce que j'aime m'asseoir. Parce que l'assise peut amener la paix, la joie. Et si vous vous ne pouvez pas produire de la paix et de la joie pendant la méditation assise, alors la méditation assise ne sert à rien. Ça n'aide pas. Même si vous asseyez 10 heures par jour. Alors nous devons apprendre comment nous asseoir afin de pouvoir produire la paix et la joie pendant l'assise. Nous devons apprendre comment marcher de telle manière de pouvoir apprécier chaque pas. Cela a à faire avec la qualité de l'assise et la qualité de la marche. Et nous savons que la pleine conscience et la concentration peuvent amener beaucoup de qualité dans nos pas, dans notre respiration et dans notre assise. Ce matin, je faisais les mouvements de pleine conscience avec vous. Si quelqu'un dit « Thai », quel est l'intérêt de faire ces mouvements comme ça? La réponse peut être la même. C'est parce que j'aime ça. Je fais ça, non pas parce que je veux avoir une bonne santé, et je voudrais vous dire comment je le fais. Beaucoup de moines de ma génération sont déjà morts. Ils sont décédés. Et beaucoup d'entre eux sont en chaise roulante. Ils ne peuvent plus faire ça. Alors je fais ça pour eux. Et je sens que lorsque j'inspire et fais cela, je me dis que c'est merveilleux de pouvoir encore être capable de le faire. Et grâce à cette conscience, j'apprécie chaque mouvement. Alors faire cela, ce n'est pas pour avoir une meilleure santé, parce que c'est simplement parce que je suis capable de le faire encore et j'apprécie. J'apprécie faire ceci, faire cela, je suis vivant. Encore vivant. Ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience nous dit que nous sommes vivants. Notre corps est assez fort, assez solide pour que nous puissions faire ces mouvements-là. Marcher, parce que la marche, marcher sur la planète Terre, c'est une chose merveilleuse. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont passé du temps dans l'espace, dans des navettes spatiales. Et lorsqu'ils reviennent sur la Terre, ils sont tellement heureux. Ils sont heureux parce que ils savent que là-haut, les gens ne peuvent pas faire cela. Alors, de retour chez eux, sur la terre, et faisant des pas comme cela, ils reconnaissent l'herbe, les buissons, les plantes, tous les oiseaux, les écureuils, et ils reconnaissent que c'est merveilleux. Combien de temps est-ce qu'on peut? Combien de temps est-ce qu'ils se réjouissent de marcher sur la terre, de retour sur terre? Je devine, les 10 premiers jours, c'est merveilleux. Mais après, ils deviennent habitués. Et peut-être qu'un an après, ils ne se sentent plus aussi heureux qu'ils ont été quand ils sont revenus sur la terre. Les premiers mois où ils sont retournés sur terre chez eux. Mais nous avons la pleine conscience. La pleine conscience nous rappelle qu'être vivant et que marcher sur la terre, c'est une chose vraiment merveilleuse. Alors, si ces scientifiques qui ont passé du temps, beaucoup de temps dans le ciel, dans des navettes spatiales, s'ils veulent continuer à être heureux, ils peuvent, grâce à la pleine conscience, repenser au moment où ils étaient dans le ciel et hop, ils sont heureux tout de suite. Ce n'est pas très difficile. se réjouir de la marche méditative, ce n'est pas difficile du tout. Nous le faisons pas parce que tout le monde le fait et on doit le faire. Nous le faisons parce qu'on aime, parce que nous aimons. Chacun d'entre nous est capable d'être pleinement conscient de l'inspiration. La pleine conscience de la respiration. Chacun d'entre nous, nous pouvons faire cela. Nous inspirons et nous sommes conscients que nous inspirons. Ce n'est pas difficile. Ça peut être très agréable lorsque vous inspirez en pleine conscience. Vous êtes conscient que vous avez un corps. Vous inspirez et vous nourrissez votre corps. Et vous êtes aussi conscient que vous êtes vivant. La pleine conscience, c'est l'éveil même. Le bouddhisme parle d'illumination. Nous n'avons pas besoin de 10 ans pour être éveillé. Simplement quelques secondes pour avoir l'illumination. L'éveil, c'est l'éveil de quoi ? Vous êtes conscient que vous êtes vivant. Ça, c'est déjà l'éveil. Vous êtes conscient que vous avez un corps, ça c'est déjà l'éveil. Vous êtes conscient que vos pieds sont assez solides pour pouvoir marcher sur la terre, ça aussi c'est un éveil. L'éveil peut se manifester en série comme cela et peut vous libérer et produit l'énergie de la joie, de la paix et du bonheur. Le bouddhisme, ce n'est pas exactement une religion, mais un art de vivre. Parce que la pleine conscience consiste est le cœur du bouddhisme. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour pratiquer la pleine conscience. Lorsque vous brossez les dents, vous pouvez choisir de le faire en pleine conscience. Vous ne pensez à rien d'autre. Vous focalisez seulement votre attention sur le fait de brosser vos dents. Vous avez peut-être 2 minutes ou 3 pour brosser vos dents. Et si vous êtes un bon pratiquant, vous pouvez produire l'énergie de la joie et du bonheur pendant que vous brossez les dents. Parce qu'il y a la pleine conscience et la concentration. Vous êtes conscient de vos dents et du mouvement. Vous êtes concentré sur cela. Vous ne pensez à rien d'autre. Simplement, focalisez votre attention sur le fait que vous brossez les dents. Et faire cela apporte du bonheur. Lorsque vous allez aux toilettes, en urinant ou déféquant, c'est aussi possible de se réjouir de ce moment. La pleine conscience peut tout changer et peut vous aider à être là et à apprécier ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup d'entre nous avons passé notre vie à rechercher le confort matériel. À rechercher le confort affectif, émotionnel. Et beaucoup d'entre nous avons beaucoup de confort. Mais nous ne sommes pas heureux pour autant. Nous avons assez d'argent, nous avons assez de confort matériel, et nous avons quelqu'un qui nous aime, qui nous comprend, Mais cependant, nous ne sommes pas heureux. Parce que il nous manque la pleine conscience. Et ceux d'entre nous qui n'avons pas beaucoup d'argent, et qui pratiquent la pleine conscience, nous chérissons notre temps. Le temps est très précieux. Lorsque vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites, c'est de respirer et d'être conscient que vous avez 24 heures toutes nouvelles devant vous à vivre. La vie est un cadeau. Lorsque j'ai été ordonné moine novice, j'ai dû mémoriser beaucoup de petits poèmes, poèmes de pratique de pleine conscience. Et le premier poème, c'est « Me réveillant ce matin, je souris. Je sais que j'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi à vivre. Et je fais le vœu de les vivre profondément et d'apprendre à regarder le monde avec les yeux de la compassion. » Il y a 4 lignes. La première ligne, c'est pour l'inspiration. La seconde, pour l'expiration. La troisième, inspiration. Et la quatrième, expiration. Et lorsque nous respirons, nous utilisons les vers pour focaliser notre attention. Vous voulez vivre ces 24 heures qui vous sont données de telle manière que la paix et la joie soient disponibles. Vous n'allez pas gaspiller ces 24 heures. Parce que ces 24 heures sont un don de la vie. Et chaque matin, nous recevons ce cadeau. Ça, c'est la pleine conscience. Il y a plus de 50 petits poèmes comme cela qu'un novice doit apprendre afin de pratiquer toute la journée. Lorsqu'un novice procédant, il y a un poème. Lorsqu'il urine, il y a un poème. En mettant sa robe, il y a aussi un poème. La pratique de la pleine conscience, c'est d'être conscient de chaque chose que nous faisons dans notre vie quotidienne, afin de pouvoir le faire en pleine conscience. Et si la pleine conscience et la concentration sont là, alors la vision profonde, la sagesse sera là, et vous pourrez apprécier chaque moment de votre vie quotidienne. Et ça, c'est la pratique de la pleine conscience. Nous vivons profondément, plus profondément, chaque moment qui nous sont donnés à vivre. Et nous ne gaspillons pas notre temps et notre vie. Alors, l'année se termine. Ça termine dans 8 jours. Le temps passe très vite. La fin de l'année peut nous aider à nous rappeler Ça peut nous aider à penser à la manière dont nous vivons notre vie, à contempler comment est-ce que nous avons vécu 2013. Comment est-ce que nous avons passé cette année? Est-ce qu'on a apprécié 2013? Comment est-ce que nous avons passé, vécu notre temps? Peut-être nous avons gaspillé beaucoup de journées avec la colère et la peur. Nous n'avons pas fait de notre mieux. Et nous pouvons nous demander, qu'avons-nous fait de notre vie? Nous avons passé beaucoup d'années, peut-être 30, 40 ans de vie. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie jusqu'à présent? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est possible, de manière à avoir plus de paix, plus de joie, plus de bonheur? Et est-ce qu'on peut aider nous-mêmes et les autres à souffrir moins? La réponse est oui, si on pratique la pleine conscience. Alors, vous apprécierez plus votre temps. Et vous pouvez chérir votre temps. Et avec plus de joie, vous pouvez certainement aider les autres à avoir plus de joie. Cette année, nous avons eu la chance d'aller dans les quartiers de Google aux États-Unis pour offrir la pratique pour les employés de Google. Et c'est la deuxième fois que nous pouvons faire cela. Nous avons passé toute une journée à pratiquer avec les gens de Google, les jeunes, des gens très intelligents, très créatifs. Et beaucoup d'entre nous, moines et moniales, ont rejoint le complexe Google, la compagnie, et nous avons passé toute la journée à s'asseoir en méditation, à manger en pleine conscience, marcher. Et nous avons fait exactement comme une journée de pleine conscience à Google. Et nous avons remarqué que les gens là-bas, ils ont pratiqué de tout leur cœur. Ils ont fait la méditation marcher avec tout leur cœur. L'assise méditative, méditation du repas, de tout leur cœur, parce que il y a de la souffrance. Ils travaillent très très dur. Et nous savons qu'une entreprise comme celle-ci vaut toujours le succès, veut être numéro un. Et ils ont investi énormément d'énergie dans cette entreprise. Mais il y a de la souffrance. Ils n'ont pas le temps de prendre soin de leur corps, de leurs émotions, de leurs sensations, de leur famille. Et c'est pourquoi ils ressentent qu'ils ont besoin d'une pratique spirituelle afin de pouvoir souffrir moins. C'est pourquoi ils ont pratiqué de tout leur cœur après l'enseignement et avec des questions-réponses, j'ai guidé une marche méditative. Ils ont tous rejoint cette marche. Et après un quart d'heure de marche, nous nous sommes assis. Calmement. En ne disant rien. Je tenais ma tasse de thé. J'appréciais mon thé. Pendant que tous les autres personnes respiraient, s'asseyaient. À ce moment-là, il y avait d'autres employés qui venaient un peu en retard et ils ont vu que quelque chose était en train de se passer là. Beaucoup de gens assis comme cela, ne faisant rien, si calmement. C'était quelque chose de complètement nouveau à Google. Le temps n'était plus de l'argent. Le temps était la paix. Le temps était la vie. Et la vie. Dans l'après-midi, nous avons passé 2 heures. À parler avec ceux qui sont responsables de la direction. De la direction à prendre dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, pour souffrir moins, pour aider les autres à souffrir moins, etc. Nous savons que dans à notre époque, nous travaillons très dur. Tout le monde travaille dur. Et nous n'avons pas le temps de prendre soin de notre corps et de nos sensations, de nos émotions. Nous n'avons pas assez de paix et de bonheur en nous-mêmes. Et nous ne savons pas, même si nous avons le temps, nous ne savons pas comment gérer notre corps, nos sensations, nos émotions. Il y a de la souffrance dedans. Il y a des conflits à l'intérieur de nous. Il y a peut-être de la solitude. Et nous ne savons pas comment gérer, comment prendre soin de cela. Et beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas retourner en nous-mêmes. Parce que nous pensons que si nous retournons en nous-mêmes, nous allons rencontrer un bloc de douleur, un bloc de souffrance. Et de solitude à l'intérieur de nous. Et nous risquons d'être complètement débordés, dépassés par cette souffrance. Alors, la tendance, c'est de nous enfuir de nous-mêmes. Et ça, c'est une caractéristique de notre civilisation. Les gens ressentent le besoin de s'enfuir d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas se rencontrer eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur que, s'ils retournent en eux-mêmes, ils vont être dépassés par leur propre souffrance, par le désespoir, la colère, la solitude qui est à l'intérieur. Nous nous enfuyons de nous-mêmes, nous. Nous n'avons pas le temps et l'occasion de prendre soin de nous-mêmes. Et si nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes, Comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres, de ceux que l'on aime? Si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous-même, comment est-ce que vous pouvez prendre soin de ceux ou de celles que vous aimez? Non seulement nous nous enfuyons de nous-mêmes, mais aussi nous nous enfuyons, nous fuyons notre famille, nos amis. Nous les laissons tomber. Et en même temps, nous n'avons pas le temps de retourner dans la nature, à la terre-mère. La terre-mère a la capacité de nous nourrir et de nous guérir. Mais nous nous enfuyons d'elle et on lui fait du mal. Et on fait du mal à la nature. Avec notre technologie. Alors, avec les nouvelles technologies, nous créons des gadgets électroniques qui nous aident à nous enfuir de nous-mêmes, de notre famille. Nous passons beaucoup de temps avec nos gadgets. Avec des gadgets électroniques. Et la technologie nous aide à nous enfuir de nous-mêmes, nous enfuir de notre famille, de la nature. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer dans notre société actuelle. Nous sommes aliénés de nous-mêmes, aliénés de la nature. Beaucoup de corporations et ont un complexe de culpabilité parce qu'ils exploitent les ressources de la terre . Ils n'ont pas la possibilité de prendre soin de l'environnement . Beaucoup des corporations, entreprises dépensent de l'argent pour calmer leur complexe de culpabilité. C'est comme en Asie. Beaucoup de temples offrent quelque chose au Bouddha. De l'argent dans les entreprises, dans les associations caritatives pour apaiser leur complexe. Ils dépensent là de l'argent pour le donner aux associations caritatives pour apaiser leur complexe, mais ils continuent à souffrir tout comme les entreprises. Et ils n'ont pas le temps de passer, ils n'ont pas le temps d'être avec leur famille. Ils n'ont pas le temps d'être avec eux-mêmes. Parce qu'ils veulent que leur travail soit fort et ils veulent atteindre quelque chose, ils veulent être numéro un. Notre santé mentale décline. Dans chaque entreprise, la santé mentale décline. Le stress. Les symptômes de la maladie mentale augmente. Et c'est pourquoi et ça c'est ce que beaucoup d'entreprises constatent et ils désirent apprendre des moyens d'améliorer et de prendre soin du stress et des soucis. Notre Sangha a passé du temps dans diverses entreprises aux États-Unis, en Californie. Nous avons pris le temps de nous asseoir et de regarder profondément pour voir si nous devrions sacrifier notre bonheur, notre bien-être, pour le succès de notre entreprise. Vous voulez être numéro un, et vous voulez être heureux aussi, en même temps. Mais si vous voulez être numéro un, vous devez mettre tout votre temps dans votre travail. Sacrifier votre famille, etc. Est-ce que vous voulez vraiment être numéro un? Être numéro un. Pour être numéro un, vous devez sacrifier le bonheur. Mais quel est l'intérêt d'être numéro un sans bonheur? Nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut le bonheur ou est-ce qu'on veut le succès, être numéro un? Bien sûr, tout le monde va répondre « Je veux le bonheur, mais aussi je veux être numéro un ». Il y a des gens qui sont victimes de leur succès. Même s'ils ont du succès, ils sont victimes de leur succès. Mais personne n'est victime de son bonheur. C'est possible, en marchant sur le chemin du bonheur, c'est possible aussi d'avoir du succès dans votre entreprise. Parce que si vous êtes plus heureux et plus paisible, votre travail sera mieux, meilleur. Mais vous devez décider que le bonheur, c'est la priorité et que le bonheur va apporter le succès de l'entreprise. Et donc, pour les entreprises, la question, c'est toujours comment être numéro un. Mais avec la question de pratiquer la pleine conscience. Pratiquer la pleine conscience pour être numéro un. Il y a une question. Les gens s'inquiètent. Il y a des gens qui s'inquiètent qu'on utilise la pleine conscience pour faire des choses. Qui ne sont pas bonnes. Beaucoup de gens ont soulevé cette question. Utiliser la pratique de la pleine conscience pour faire de l'argent. Dans une retraite pour les psychothérapeutes à l'université de Harvard, quelqu'un a posé cette question. Il y a des gens qui enseignent la pleine conscience, mais ne pratiquent pas la pleine conscience. Parce que beaucoup veulent apprendre la pleine conscience, Alors vous apprenez avec votre tête, votre intellect, donc vous savez beaucoup de choses sur la pleine conscience. Alors vous enseignez aux personnes qui veulent apprendre, mais vous-même vous ne pratiquez pas. Alors la pleine conscience devient quelque chose qui n'est plus la pleine conscience du tout, parce que la pleine conscience c'est une pratique et pas une théorie. Alors ma réponse a été, ne vous inquiétez pas, parce que si vous pratiquez la vraie pleine conscience, ça ne fera jamais de mal. Parce que la pratique de la vraie pleine conscience, qui est Samasati, Samasmurti, ça, c'est le premier signe, c'est vrai, et le deuxième, c'est pleine conscience. S'il y a la vraie pleine conscience, vous ne vous inquiétez pas, parce que elle amène toujours la paix, la joie et le bonheur, et la compassion. Si la pleine conscience, si la pratique n'amène pas la paix, la joie, et la compassion, ce n'est pas la pleine conscience. Le problème, c'est le fait, c'est que la pratique, la pleine conscience que vous offrez doit être la vraie pleine conscience. Et lorsque vous commencez à appliquer cette pratique, la paix, la joie, et la compassion naissent tout de suite. Et c'est drôle d'entendre qu'il y en a qui enseignent la pleine conscience, mais qui ne la pratiquent pas. Comment est-ce qu'ils peuvent enseigner ? Vous pouvez seulement donner quelques idées au sujet de la pleine conscience. Et ça ne vous aide ni vous ni les autres. Cinq de nos moines et moniales ont passé des heures à parler avec des ingénieurs au sujet d'une sorte de site internet qui pourrait aider les gens à pratiquer la pleine conscience afin qu'ils puissent relâcher les tensions de leur corps, relâcher les tensions dans les émotions et apprendre à prendre soin des sensations douloureuses, des émotions douloureuses, comment marcher, afin que chaque pas puisse amener la relaxation et la paix et la joie, et comment parler, comment écouter pour restaurer la communication, en créant un site internet comme cela sur lequel les gens pourraient venir et apprendre la pratique, c'est quelque chose de très bien. Et ça peut profiter à beaucoup de gens. Les personnes peuvent venir sur ce site. Ces ingénieurs peuvent inventer des nouvelles manières. Au lieu de s'enfuir d'eux-mêmes, des nouvelles manières de vivre leur travail. imaginez un nouveau téléphone. Avec la pratique de la pleine conscience dedans, imaginez que quelqu'un vous appelle. Et le téléphone répond tout de suite. Cher ami, pour l'instant je respire. J'apprécie quelques respirations, inspirations. Je relâche mes tensions. Je deviens conscient de mon corps. Dans mon corps. J'inspire. Je ressens que je suis vivant. J'expire, je souris à la vie. S'il te plaît, pratique avec moi et je te répondrai après. Cette sorte de choses. Et lorsque vous marchez, pas en pleine conscience, il peut y avoir des petits senseurs, comment on dit, des senseurs, qui invitent un son de cloche et qui disent « Cher ami, réjouis-toi de tes pas ». L'après-midi, votre téléphone dans l'après-midi va vous rappeler, va vous poser une question. Cher ami, est-ce que tu as pratiqué le deuxième mantra de parler à votre bien-aimé en disant « Cher bien-aimé, je sais que tu es là et je suis heureux ». Nous avons passé des heures à discuter de ces sujets-là. Et les gens de Google pensent beaucoup à cela. Et peut-être bientôt vous allez voir apparaître un téléphone comme cela. Les gadgets électroniques peuvent nous aider à retourner en nous-mêmes, à prendre soin de nous-mêmes, de notre famille et de la nature. Au lieu de nous tirer, de nous pousser à nous enfuir de cela. Vous n'avez pas besoin de jeter la technologie à la poubelle. Vous pouvez en faire bon usage pour aider les personnes. Parce qu'avec la pleine conscience, nous pouvons retourner en nous-mêmes sans peur. Sans la peur d'être dépassé par le bloc de colère et de souffrance. Et de solitude à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs monastiques qui sont aussi allés visiter Facebook. Et ils ont eu des discussions très intéressantes au sujet de comment travailler ensemble et trouver des nouvelles manières d'aider les gens à souffrir moins. Alors, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, nous allons pratiquer la méditation marcher, assise, et réfléchir à cela, contempler cela. Vous pouvez imaginer que vous soyez déterminé à commencer l'année 2014. Avec le souhait que vous allez pratiquer, vous allez toujours pratiquer la méditation marcher du parking jusqu'à votre bureau. Au lieu de marcher vite pour arriver, vous allez faire le vœu que vous allez vous réjouir de chaque pas du parking jusqu'au bureau. Et que chaque pas va vous aider à relâcher les tensions du corps. Chaque pas va vous permettre de toucher les merveilles de la vie qui sont en vous et autour de vous. Ça, c'est quelque chose de possible. Je me souviens, cette année, nous sommes allés Nous avons eu une retraite à Hong Kong pour à peu près 1300 personnes. Le YMCA ne pouvait pas accepter plus de pratiquants. Alors, nous avions seulement 1300 personnes, 1300 retraitants. J'ai proposé, le dernier jour de la retraite, j'ai proposé aux gens que de leur maison jusqu'à leur station de bus, du seuil de leur porte jusqu'à la station de bus, ils pratiquent la méditation au marché. Parce qu'à Hong Kong, les gens n'utilisent pas trop leur voiture. Ils marchent pas mal. Ou alors, ils utilisent les bus, les transports publics. Alors, pour rendre la pratique concrète, j'ai suggéré à tout le monde de marcher de leur porte, de leur maison, jusqu'au bus, jusqu'à la station de bus, en méditation marché, que chaque personne puisse s'organiser de manière à pratiquer la méditation marché. C'est ce que j'ai dit, chers amis. Lorsque j'étais un jeune moine, je ne voulais pas avoir de disciples. Je pensais que c'était... Je pensais que ça suffisait d'enseigner aux disciples des autres. J'ai gardé cette idée pendant longtemps. Et même lorsque je suis venue en Europe, aux États-Unis, je donnais des enseignements, je gardais cette idée que je ne voulais pas avoir de disciples moi-même. Les gens étaient heureux durant les retraites. Et après la retraite, ils continuaient à être heureux pendant quelques mois. Et ensuite, ils abandonnaient leur pratique, quelques mois après les retraites. Et j'ai remarqué cela. Et c'est en partie parce que il n'avait pas d'enseignant, il n'y avait pas de relation entre le maître et les disciples réels. Et c'est seulement après quelque temps que j'ai reconnu cela. C'est pourquoi j'ai commencé à accepter des disciples, des monastiques et des laïcs. Et j'ai commencé à transmettre les 5 entraînements à la pleine conscience, les 14 entraînements à la pleine conscience. Et j'ai aussi ordonné des moines et des moniales. Et de cette façon, il y a une connexion entre l'enseignant et les élèves, les disciples. Et cela aide les disciples à maintenir la pratique pour un long temps. J'ai aussi dit aux personnes à Hong Kong, dans cette retraite, que durant ces 2 dernières décennies, je n'ai pas utilisé le téléphone. En fait, je n'ai même pas de téléphone moi-même. Mais je ne me sens pas déconnectée de mes amis, de mes étudiants. C'est pas parce qu'on a un téléphone qu'on peut être en lien. Je n'ai pas de téléphone, mais je ne me sens pas déconnectée de mes étudiants et de mes amis. Alors j'ai dit aux gens à Hong Kong, si vous voulez être connecté avec moi, votre enseignant, ce que vous pouvez faire, c'est le matin après le petit déjeuner, de votre maison jusqu'à la station de bus, pratiquer la méditation marchée. Parce que moi-même, je fais ça toujours. Et en faisant cela, vous savez que votre maître est toujours là. Il fait la même chose que vous. Et juste en marchant comme cela, vous avez une connexion profonde avec votre maître et vous obtenez l'énergie de Thaï. Et vous marchez avec votre maître et la Sangha. Et combien d'entre vous veulent faire cela? Et tout le monde a levé la main. Et ça, c'est quelque chose de très concret. Vous faites un engagement. Vous marchez de telle manière que chaque pas vous amène la joie, la paix et le bonheur. Et vous vous sentez en lien avec la Sangha à la maison. Si vous marchez comme ça, vous êtes en lien avec les moines, moniales, les pratiquants. Et vous pouvez toucher l'énergie de la Sangha dans votre vie quotidienne. Comme je l'ai dit au début de cet enseignement, la pratique de la pleine conscience n'est pas difficile. Vous pouvez pratiquer la méditation, la respiration consciente, la marche, brosser les dents en pleine conscience. Et vous pouvez toucher la joie et la paix et le bonheur. Bien sûr, lorsque nous sommes entourés de gens qui pratiquent, nous sommes rappelés à la pratique. C'est pourquoi nous avons besoin d'une sangha. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas proches d'une sangha, vous pouvez commencer à être en contact avec les sanghas par internet. Beaucoup de gens sont venus au village des pruniers après avoir lu des livres de Thaï ou être allés visiter le site internet du village des pruniers et ils ont appris la pratique comme cela. C'est possible de changer notre vie avec la pratique de la marche, de la respiration. Et nous pouvons améliorer la qualité de notre vie quotidienne simplement en pratiquant la respiration consciente et la marche consciente. Et si nous faisons, on le fait bien, méditation marchée consciente, respiration consciente, alors nous allons être capables de gérer facilement les émotions douloureuses, les sensations douloureuses en nous-mêmes. Parce que la pratique de la marche, de la respiration consciente, amène des sensations de joie et de paix en nous. Mais peuvent aussi nous aider à gérer les douleurs, les émotions douloureuses en nous. Et nous pouvons aller encore plus loin. Nous savons qu'avec la pleine conscience, nous pouvons écouter une autre personne avec compassion. Parce que nous avons été capables de nous écouter nous-mêmes avec compassion. Alors, c'est pour ça que nous pouvons écouter l'autre. Et cette écoute nous aide à souffrir moins et aide l'autre à souffrir moins. Nous pouvons utiliser un langage qui restaure la communication. Ça s'appelle la parole bienveillante. C'est un élément des 5 entraînements, la pleine conscience. C'est la 4e entraînement. Lorsque nous maîtrisons la pratique de la de l'assise et de la respiration consciente, nous pouvons nous entraîner à l'écoute profonde et à la parole bienveillante. Et vous pouvez restaurer la communication facilement. En 2006, j'ai été invitée par l'UNESCO à parler pendant la célébration de Vesak, l'anniversaire du Bouddha. Et j'ai fait une proposition que l'UNESCO organise un institut pour entraîner les enseignants d'école avec la pleine conscience. Les professeurs. Des professeurs venant de tous les pays pourraient venir et apprendre comment prendre soin de leur corps, relâcher les tensions, pratiquer la respiration consciente, générer la paix, la joie, prendre soin des sensations douloureuses, des émotions difficiles, apprendre à utiliser la parole bienveillante et l'écoute profonde. Parce que ces personnes vont amener ces pratiques dans leurs écoles, dans leurs classes. Et vont comme cela aider les jeunes à gérer gérer l'énergie de la violence. En 2006, nous avons appris qu'en France, dans les écoles en France, de la maternelle jusqu'au collège, université, lycée, il y a beaucoup de violence. On a enregistré plus de 8000 cas de violence, soit entre les étudiants eux-mêmes ou entre les étudiants et les professeurs. Plus de 8000 cas de violence. Peut-être que c'est encore pire maintenant, 7 ans après. Et nous, du village des Pruniers, nous sommes volontaires pour aller entraîner ces professeurs à la pratique. Nous pouvons les instruire dans une sorte de langage qui n'est pas bouddhiste. On peut utiliser le langage ordinaire. Le directeur de l'UNESCO, à cette époque, c'était Frédéric Meyer, et il a beaucoup apprécié cette idée. Il a recommandé qu'au village de Pruniers, nous produisions des matériaux pour ces sortes de pratiques et d'enseignements. Je suis retournée au village des Pruniers et j'ai demandé à nos enseignants du Dharma de s'asseoir et de produire deux documents qui pourraient être utilisés dans ce sens. Le premier a été publié en livre et c'est au sujet de la colère. Ce livre a été publié aux États-Unis une semaine avant les événements du 11 septembre. Et le second document a été publié sous le titre « Créer la paix véritable ». Le premier, c'est la colère. Les éditeurs nous ont demandé d'inclure des exemples, des histoires pour illustrer l'enseignement, pour qu'on puisse apprécier plus les enseignements. Ces dernières 4-5 années, les enseignants du Dharma au village des Pruniers ont entraîné des professeurs des écoles dans différents pays, et dont le Bhoutan, la Thaïlande, l'Inde, l'Amérique, l'Angleterre. Nous avons offert beaucoup de retraites pour les enseignants. Dans ces retraites, nous offrons cette sorte de pratique. Frédéric Mayer a quitté son travail après quelques temps, alors il n'a pas poursuivi le travail. Il y a quelques semaines, j'ai proposé avec un des enseignants ici que nous recontactions l'UNESCO pour relancer cette idée. Peut-être que l'UNESCO peut établir un centre dans ce sens. Mais en attendant, nous pouvons entraîner beaucoup de personnes. Parce que nous avons déjà fait cela ces dernières années. Chers amis, si vous êtes professeur d'école et que vous voulez en savoir plus à ce sujet, pour la pleine conscience dans les écoles et avec les jeunes, comment être des professeurs heureux pour changer le monde. Si vous voulez aider les jeunes générations à pratiquer la non-violence, la pratique est très concrète. Comment créer des sensations de joie et de bonheur dans le corps? Comment gérer une sensation douloureuse, une émotion forte? Comment écouter avec compassion? Comment parler avec compassion pour reconnecter et restaurer la communication? Ce sont des pratiques très importantes. Alors, l'année prochaine, en 2014, cette année peut être l'année dans laquelle nous investissons plus de temps et d'énergie dans cette pratique. Et nous pouvons améliorer notre qualité de vie dans notre famille, dans notre entreprise, dans notre école, dans notre lieu de travail. Et si vous êtes un docteur ou une infirmière, vous pouvez faire quelque chose avec vos collègues pour transformer l'hôpital en un lieu de pratique où les gens peuvent écouter avec compassion, parler avec compassion, où les gens savent comment gérer les émotions difficiles. Et cette pratique pour les docteurs, les infirmières vont aider énormément les patients parce que cette énergie est très guérissante. La même chose est vraie dans les écoles, dans les entreprises, dans les villes, dans les conseils municipaux, etc. Lorsque j'étais en Inde, j'ai donné un enseignement à des membres du Parlement et j'ai suggéré que la pratique de la pleine conscience devrait être amenée au Parlement même, afin que tout le monde puisse s'écouter les uns les autres avec compassion et transformer ce lieu en un lieu où toutes les idées peuvent être offertes. Et de cette manière, nous pouvons créer des lois qui amènent plus de paix dans le pays. Je pense que nous pouvons maintenant aller pratiquer la méditation marchée parce qu'il y a le soleil dehors. Chers amis, gardez vos écouteurs parce qu'il va y avoir des annonces après que Thaï ait quitté la salle. Vous pouvez les laisser brancher.